Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans Religion du Monde. Notre invité, l'imam Abdelali Mamoun, imam itinérant, région parisienne, vice-président de la conférence des imams de France et qui vient de signer aux éditions du CERF l'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive.
Bonjour.
Bonjour Abdelali Mamoun, c'est la première fois que vous venez dans Religion du Monde. Alors, on va parler bien sûr de votre livre, hein, de cet appel que vous lancez, mais d'abord les grandes lignes de votre parcours. Vous êtes né dans la religion musulmane.
Vous avez baigné
dans la religion musulmane. Vous êtes né en France ou en Algérie?
Alors, je suis né à Mantes-la-Jolie, donc dans une banlieue à l'époque qui était considérée comme la deuxième plus grande ZUP d'Europe.
Ouais.
Hein, au niveau européen, elle avait le statut de deuxième plus grande zone urbaine populaire, effectivement. Et donc, c'est dans cet environnement-là, dans une fratrie de 10 enfants, dans un bâtiment de 20 étages avec des parents analphabètes, où j'ai donc grandi et réussi à percer dans la vie active.
Des parents travailleurs, bosseurs,
qui
tenaient la famille bien.
Mon père travaillait dans l'usine de Renault et ma mère était bien sûr une mère au foyer à s'occuper de ses 10 enfants avec beaucoup de passion et voilà, et je la regrette parce qu'elle est décédée. Que Dieu ait son âme.
Votre oncle va jouer un rôle important puisqu'il est en fait un actif, j'allais dire, un membre actif.
Un militant
du Tablir.
Tout à fait.
Alors le Tablir, donc ce mouvement transnational, on va dire, né en Inde en 1927 et qui prône une lecture littérale du Coran. Donc vous allez effectivement être très influencé par cet oncle.
Tout à fait, puisque à Mantes-la-Jolie, c'est lui aussi qui va intervenir pour aider l'association pour construire et d'abord ouvrir le premier local où aller accueillir les premiers musulmans. Et aussi, il va bien sûr intervenir dans ma famille, dans la famille de son frère, en l'occurrence mon père, pour nous encourager à nous attacher aux préceptes de l'islam. Et donc moi, à 7 ans, je vais être l'un des tout premiers élèves de l'école coranique qui va s'ouvrir au pied de mon bâtiment.
Et après, vous allez plus tard partir en Syrie, mais ça sera un peu plus tard, quand vous aurez un peu avant 20 ans?
Non, à peine à 14 ans.
À 14 ans.
C'est en 83 que je m'engage avec mon cousin, donc le fils de mon oncle, qui est devenu aujourd'hui l'imam de la mosquée de Béziers, en Syrie pour étudier les sciences islamiques.
Et ça pendant plusieurs années?
6 ans, effectivement. 4 années à Alep et 2 années à Damas. Et de là, je vais pouvoir sortir avec un diplôme de fin d'études de sciences islamiques, l'équivalent d'une maîtrise aujourd'hui universitaire.
L'islam que vous rencontrez alors, c'est plutôt un islam soufi?
C'est très soufi, en effet. Ça, c'est Alep. Alep,
oui.
C'est très soufi. C'est lié à une confrérie Naqshbandi, la confrérie Naqshbandi, qui est une des confréries soufis très répandues en Asie. Mais ensuite, à Damas, là, c'est tout un panel d'idéologies que je rencontre, que je découvre moi-même. Je suis dans la fougue de la jeunesse. Je découvre le salafisme, les frères musulmans, le Hamas, tout un ensemble de mouvements extrêmement virulents. Nous sommes, je vous le rappelle, dans une période où l'Occident... avec son fer de lance, les États-Unis soutient les islamistes pour combattre l'hégémonie russe sur le monde arabe. Et donc, à partir de là, il y a d'une certaine manière un soutien direct ou indirect de ces pays-là pour promouvoir l'islam, un islam extrêmement rigoriste.
Et là, vous êtes donc séduit par les frères musulmans qui sont interdits en Syrie.
Tout à fait. Ils sont interdits en Syrie, mais en Jordanie, ils sont extrêmement répandus. Et c'est effectivement là-bas où je vais découvrir cette organisation. Et aussi en France, en Europe, où je vais pouvoir me déplacer, pouvoir rencontrer des personnalités de cette obédience et intégrer des organisations qui sont de cette obédience, telles que par exemple l'Union des organisations islamiques de France, que je vais très vite quitter. Je vais rejoindre l'association des étudiants islamiques de France, puisqu'à l'époque je suis encore un étudiant à la Sorbonne. Et donc à partir de là, j'intègre cette organisation qui organise tout un ensemble de colloques avec des intellectuels et des penseurs tels que, par exemple, le docteur Larbi Keshat et d'autres imams qui sont aujourd'hui encore présents sur le territoire.
Pourquoi allez-vous prendre vos distances? À quel moment allez-vous prendre vos distances et pourquoi?
Alors, je prends mes distances bien plus tard. C'est après avoir pris mes fonctions au sein de la mosquée de Mantes-la-Jolie que je découvre que la responsabilité de promouvoir un islam de France exige des réformes, exige une vision différente de la manière de gérer l'islam en France. Et que cette vision que proposent les frères musulmans est totalement obsolète, est totalement inadéquate et totalement, on va dire, anachronique.
Qu'est-ce qui vous dérangeait ?
D'abord, le fait que cette organisation prône l'instauration d'un État islamique. Je ne trouve rien, moi, dans le Coran et dans la tradition prophétique, l'obligation des musulmans d'instaurer un califat. Ça n'existe pas. C'est une pure invention déduite d'une interprétation erronée du Coran et de la Sunna du prophète. Donc, à partir de là, je me rebelle contre cette idée et je me rebelle contre l'idée d'en réinstaurer un État islamique. Ce que prônent effectivement depuis longtemps les frères musulmans. Les salafistes, eux, sont contre l'instauration d'un État islamique, mais eux sont pour une lecture très rigoriste, très littérale, très réduite de nos textes, qui aboutit à l'impossibilité totale de l'adapter aux réalités occidentales. À partir du moment où des gens sont détenteurs ou capitalisent des valeurs universelles, nous ne pouvons pas les renier sous prétexte qu'ils n'y adhèrent pas au nom de Dieu et au nom de l'islam. À partir du moment où ce sont des valeurs en tant que telles, nous devons y adhérer, telles que, par exemple, la démocratie, les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté d'expression, toutes ces valeurs-là que l'on retrouve aujourd'hui, qui ont été développées par nos penseurs occidentaux tels que Rousseau, Montesquieu et d'autres, et Voltaire, oui, bien sûr, et bien d'autres intellectuels qui ont été à l'origine de l'Occident des Lumières et dans lequel nous sommes nous aussi des héritiers. Et on nous dit non, il ne faut pas prendre en compte ces idéologies, elles sont hérétiques, alors que c'est totalement faux. Quand on relit le texte prophétique ou coranique, on ne trouve rien qui vient au contraire. Ce sont des lignes confondues. Ce sont les mêmes valeurs. Les valeurs universelles sont les valeurs islamiques.
Vous citez effectivement dans votre livre, Abdelali Mamoun, beaucoup de références. Il y a beaucoup de références au Coran. Et alors, vous les interprétez, vous, de cette façon-là. Mais elles sont aussi interprétables d'une autre façon.
Alors, attention, ce n'est pas mon interprétation. À chaque fois, oui, je reprends l'interprétation des ancêtres pieux, c'est-à-dire de ces savants-là du Moyen-Âge et du début de l'avènement de l'islam, pour ne pas être accusé d'être un réformiste. Non, je reprends, par exemple, dans le verset qui fait allusion, effectivement, au fait de tuer, de combattre les ennemis, combattez-les afin qu'il n'y ait pas de discorde. Là, on interpelle le fils du calife Omar. Donc, nous sommes vraiment au début de l'avènement de l'islam. Ce grand savant Abdullah ibn Omar dit qu'il ne s'agit pas ici, quand on parle de fitna, de ne pas suivre l'islam, de les combattre pour qu'ils suivent l'islam, mais pour que vous ne soyez pas obligés de suivre leurs convictions. Donc, en fin de compte, le Coran nous dit de combattre ceux qui nous empêchent de jouir de notre liberté de conscience et de notre liberté religieuse. Donc, c'est une démarche défensive et en aucun cas une démarche offensive.
Dites Abdelali Mamoun, je m'appuie sur l'interprétation de pieux savants. Est-ce que ça veut dire que ça s'arrête, qu'on ne peut pas aller au-delà de ces pieux savants, ou bien qu'aujourd'hui on a tout à fait le droit de réinterpréter des passages du Coran, des
sourates? Bien sûr qu'il est possible de réinterpréter. Les premiers savants ont laissé beaucoup de travail à faire aux contemporains, bien sûr. Mais le souci aujourd'hui, c'est que le salafisme, ces courants extrémistes, même chez les frères musulmans, ne considèrent que la vraie interprétation, c'est celle qui émanent de ces savants pieux, de ces ancêtres pieux. Et donc, pour pouvoir contrecarrer ce discours radical, je ne peux pas, moi, venir avec un discours contemporain pour contrecarrer un discours ancestral. Il faut que je revienne même aux interprétations ancestrales pour leur dire, puisque vous vous référez à ces ancêtres ancestraux, voilà ce qu'ils disent réellement. Et vous avez fermé les yeux sur ces interprétations-là, et donc vous tout ça pour servir vos propres intérêts. Et finalement, je les mets face à leur propre erreur et leur propre déviance sur la base de leurs propres sources.
Alors, Abdelali Mamoun, c'est votre premier livre, hein, L'Islam contre le radicalisme, publié donc aux éditions du Cerf. Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui précisément de sortir du bois, j'allais dire? Parce que c'est vrai que on manque en quelque sorte de d'imams et d'intellectuels musulmans qui, à un moment donné, enfin des gens de terrain, j'allais dire, qui à un moment donné, voilà, s'expriment très clairement sur l'enjeu actuel qui se déroule en France.
Parce que je pense que il est du devoir de tout, de tous les acteurs, de tous les militants, d'agir pour éradiquer cette montée de l'extrémisme religieux qui endoctrine et qui, on va dire, embrigade nos jeunes dans des idéologies néfastes et mortifères, et qu'il fallait intervenir d'un point de vue théologique. Je laisse le travail sociologique, éducatif, social, familial, aux autres acteurs qui sont spécialisés dans ces domaines pour faire ce travail. Moi, mon rôle, avec d'autres imams, et malheureusement, je ne trouve pas ces autres imams pour faire ce travail que j'ai fait seul, qui concerne la relecture authentique et ancestrale aussi, pas simplement contemporaine, pas innovatrice. Il s'agit pas de réformer, mais de relire authentiquement le Coran, comme il a été révélé, et avec, bien sûr, une lecture qui prend en compte l'esprit de la révélation, de ce que veut Dieu, qu'est-ce qu'attend Dieu de nous. Il donne vie aux gens pour qu'on les tue. Est-ce qu'il donne la vie à l'humanité pour que on s'entretue? Ça n'a aucun sens que de voir les choses de cette manière-là. Tous les versets, tous les hadiths vont en contresens de cette lecture totalement biaisée et suicidaire. Donc à partir de là, notre rôle, nous les imams, c'est de publier et de diffuser, et nous devons avoir les moyens médiatique de pouvoir diffuser cette lecture originelle et en même temps salvatrice de l'islam, c'est-à-dire que je ne suis pas mes passions, je suis ma raison, je suis ma révélation de manière raisonnée.
En quelque sorte, c'est un contre-discours que vous voulez tenir, hein, un contre-discours aussi face à, je dirais, à une compréhension ambiante du Coran qui est davantage perçue
et qui est davantage perçue. Instrumentalisé, ouais, à des fins politiques.
Ouais, mais qui est davantage perçu souvent comme un texte qui où la violence peut être présente.
Elle est présente dans un contexte qui l'appelle, bien sûr. Dieu, dans le Coran, a autorisé les musulmans de se défendre, pas d'attaquer, pas sous forme offensive, de répandre ou de conquérir. Il s'agissait purement de se défendre avoir le droit de jouir de leur liberté.
Le petit djihad est bien autorisé. La violence à travers le petit djihad est tout à fait autorisée dans l'islam. Enfin,
alors,
dans le
moi,
Coran, c'est
pour
ça.
Moi, il n'y a pas de petit.
Non, mais vous l'écrivez,
ouais,
hein.
C'est
petit djihad, grand djihad.
Donc, pour moi, il n'y a pas de grand et de petit djihad. Le petit djihad qu'on a est pour moi un grand djihad. Prendre les armes pour aller défendre les frontières territoriales de son pays contre l'oppresseur, c'est un grand djihad. On peut pas l'appeler petit djihad. Quand je dis djihad, ça veut dire lutte,
oui, lutte
au sens
oui.
littéral. Quand un casque bleu va dans un pays pour combattre un dictateur qui opprime sa population, c'est un mujahid. C'est quelqu'un qui pratique le djihad. Donc le djihad, pour moi, il est réel au sens littéral du terme, c'est dans le sens d'utilisation de la force militaire. Il est tout à fait légitime à partir du moment où il est légitimé par un Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ceux qui sont là aussi pour défendre le territoire sont des mujahides qui pratiquent le djihad légitime qui est dans le Coran. Et pour moi, ce sont les soldats, ce sont les policiers, ceux qui ont l'allée, et non pas celui qui est pris en son sac à dos et qui décide de prendre son passeport pour aller rejoindre Daesh, qui est une organisation terroriste qui maltraite la population des villes dans lesquelles il gère, notamment à Arka, à Raqqa et à Mosul, et entre autres. Et à partir de là, ces gens-là ne sont pas dans cet islam véridique, ils sont dans le pur. Moi, je disais à un jeune, il me dit, moi, j'ai envie de partir faire le djihad.
Vous en avez rencontré, vous
ah,
en
oui,
avez.
Bien sûr. Je dis, tu vas aller où? Il m'a dit, je vais aller là-bas, je vais vivre bien. Il me dit, ouais, tu. Oui, il me dit, mais la maison que tu vas habiter, c'est ta maison? Tu l'as achetée? Non. C'est la maison de quelqu'un qui a dû laisser sa partir sa maison. Donc tu viens occuper une maison qui n'est pas la tienne. La nourriture, les biens, la terre d'Irak, elle est la tienne? C'est la tienne? Non, c'est celle des Irakiens. De quel droit? Il dit non, on a le droit parce que c'est le calife qui l'a décrété. Je dis le calife, c'est le représentant de Dieu. Il a un pouvoir divin, il a une sacerdoce. Dieu lui a donné une délégation pour pouvoir occuper le territoire des gens, expulser les gens et les remplacer par des gens qui leur seraient fidèles comme toi. Mais réfléchis un peu, c'est complètement absurde, ta lecture est totalement biaisée. Tu n'es qu'un imposteur, tu n'es qu'un spolieur, tu spolies la terre des gens et tu spolies les biens des autres pour pouvoir, soi-disant, répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi. S'il t'a fait naître en France ou ailleurs, c'est que tu dois agir sur là où tu es et tu dois, ce que tu dois acquérir, tu dois l'acquérir légalement et à la sueur de ton front. Et pas avec une arme à la main et en terrorisant les autres.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Abdelali Mamoun, être imam aujourd'hui en France, c'est remplir beaucoup, beaucoup de fonctions. On y viendra après. Parmi celles-ci, effectivement, il y a celle de dissuader des jeunes de partir.
En effet, le rôle de l'imam en France dans une mosquée, c'est de réussir à vacciner, à immuniser les jeunes contre cet endoctrinement qui se diffuse sur Internet, qui se diffuse aussi dans les quartiers à travers des prédateurs qui encouragent des jeunes par des moyens matériaux, etc. et autres, et logistiques, pour aller rejoindre l'armée de Daesh parce que, effectivement, cette organisation terroriste malfaisante essaye de recruter. Elle a besoin de ressources humaines, elle a besoin de ressources matérielles et financières pour pouvoir effectivement répandre son hégémonie dans le monde. Parce que leur objectif, c'est pas que la Syrie, c'est effectivement d'imposer l'islam dans le monde entier. Donc il s'agit bien
d'un ordre mondial islamique. Hein.
Voilà, c'est un nazisme, un islamisme nazi. Il y en a qui aiment pas trop cette expression-là, mais concrètement, c'est ça. C'était de réussir à répandre cette idéologie dans le monde pour l'imposer.
Oui.
Pour l'imposer au monde entier. Alors que dans le Coran, il est clair, non contrainte en religion. Tu n'es pas un dominateur, mais tu n'es qu'un rappel. Dans le Coran, dans la sourate Al-Rachia, il y a énormément de versets qui font allusion et qui apaisent la fougue du prophète quand il voulait convertir de force les non-croyants. Dieu le rappelait alors, il dit, est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens afin qu'ils deviennent croyants? Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Tu n'es là que pour transmettre le message, en aucun cas d'imposer la foi dans le cœur des gens. Et d'abord, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc, à partir du moment où chaque être humain reste libre dans son cœur, il est inutile d'essayer de le contraindre.
Alors, le poids de l'imam, parce que ce qui est dit fréquemment, c'est que l'imam n'a pas beaucoup de poids, il a beaucoup moins de poids qu'Internet.
Alors, effectivement, l'Internet joue un rôle important, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est devant son clavier, tout le monde est connecté. Mais si l'imam, effectivement, fait un travail social, fait un travail d'encadrement, un travail pédagogique efficace dans sa mosquée, où est-ce qu'il dit aux jeunes quels sites ils doivent aller fréquenter sur Internet, ben les jeunes ne pourraient pas être tentés par un discours radical. Mais aujourd'hui, rien n'est fait de cela. Qu'est-ce que nous avons en France? Environ 2000 mosquées dirigées...
2450, oui.
Ouais, 2450, 2500 à peu près. Vous avez presque 2000 mosquées qui sont dirigées par les États étrangers et qui sont dirigées par des imams qui sont venus du bled et qui sont totalement en déphasage avec la jeunesse issue de l'immigration et qui ont une autre mentalité qu'eux. Donc ce qui fait que les jeunes ne trouvant pas ce qui va combler leur vide spirituel ou qui va leur donner un sens dans la vie, eh bien ils vont le chercher ailleurs, ils vont aller le chercher sur Internet. Donc là, il y a quelque chose à rectifier en matière de gestion de l'islam de France, c'est qu'il nous faut des imams français, pas simplement des imams qui parlent français, mais des imams
locaux,
français
quoi.
Et qui des locaux qui comprennent ce qu'il y a dans la tête des jeunes et qui sont là, qui sont prêts à avec dévotion, avec engouement à jouer leur rôle et qui soient les derniers à sortir de la mosquée et non pas comme ça se passe aujourd'hui les premiers. Hein, aujourd'hui l'imam, dès qu'il a fini son office, il sort et il laisse tout le monde dans la mosquée voué à lui-même, alors que normalement il doit être là pour écouter, pour répondre aux questions, pour être à l'écoute de ces jeunes-là, leur proposer des activités, leur proposer pour eux des conseils d'insertion sociale et professionnelle, pour les encourager à s'engager dans la vie, pour être des bienfaiteurs, et que c'est dans cette démarche-là qu'ils pourront plaire à Dieu. hein, que de devenir des bons citoyens.
Comment définiriez-vous votre rôle? Qu'est-ce qu'un imam aujourd'hui? Est-ce que c'est autant effectivement un responsable, je dirais, cultuel, qu'un assistant social, qu'un... Est-ce que c'est tout cela à la fois?
C'est un peu tout ça, effectivement. L'imam qui, malheureusement, a des carences en matière de ces différentes spécialités, devrait être formé en la matière, dans des matières profanes telles que l'éducation civique, la sociologie, la psychologie, oui. La science de l'éducation. Et aujourd'hui, il y a des grosses carences, il y a des manques à ce niveau-là par rapport aux imams qui sont obligés de se faire aider par toute une équipe au sein de leur mosquée, où parfois, tout simplement, le travail n'est pas fait et négligé. Et ils laissent un boulevard énorme à ces prédateurs qui récupèrent nos jeunes.
Est-ce que les rémunérations de l'imam sont trop basses pour attirer les jeunes?
Le problème, il n'est pas au niveau de la rémunération, mais le problème, il est pas
quel
sur
est
la somme.
Quel est
non,
salaire,
mais c'est qui rémunère, c'est ça.
Ah oui.
Aujourd'hui,
mmh.
c'est l'association, loi 1901. Qui gère la mosquée, qui est propriétaire de la mosquée, qui en général salarie l'imam. Alors c'est même pas la plupart du temps, c'est des enveloppes au noir, elles sont même pas déclarées à la CAVIMACT. À un moment, ils devraient être inscrits
ah, c'est au black,
à la
hein.
C'est tout à fait au noir. La plupart des imams n'ont pas de statut d'imam déclaré, ou ils sont déclarés en tant qu'éducateurs de manière à rentrer dans le cadre des lois du code du travail.
Donc est-ce que tout ça peut expliquer effectivement que l'imama n'attire pas, parce que c'est le problème aussi, l'imama n'attire pas. Pas beaucoup.
Je sais pas si elle attire pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dire? La question c'est pas de savoir si elle attire ou pas. Le problème c'est que les mosquées ont décidé d'utiliser des imams qu'ils n'auront pas à payer, puisque ces pays-là qui envoient des imams assurent le salaire de ces imams. Et il y en a plusieurs centaines en France. Hein, il faut les compter en plusieurs centaines. Entre les 400 mosquées turques qu'il y a en France, les 600 mosquées algériennes, les 800 mosquées marocaines, une grande partie de ces imams sont salariés par leur pays, par le ministère des Affaires religieuses de leur pays respectif. Ce qui soulage de manière très significative l'association du salaire qu'elle doit payer à l'imam, mais tout en lui donnant, en gardant un contrôle sur lui.
Pour réformer l'islam de France, Abdelali Mamoun, vous proposez rien que cela, rien que moins, un grand concile de l'islam en Occident. Alors, vous faites comme les cathos, quoi, avec Vatican II.
Pourquoi pas? Effectivement, il y a du travail à faire en interne. Il y a des réformes quant à la manière d'interpréter le texte dont nous sommes les héritiers, ou plutôt nous subissons ce carcan de cette interprétation qui nous vient des pays qui n'ont jamais pu s'élever et s'émanciper, parce que ils sont sous l'emprise de ces interprétations archaïques et erronées de l'islam. Donc j'en appelle aux musulmans et aux intellectuels musulmans à se libérer de ce carcan là et d'organiser notre propre vision de l'islam, de France, de manière à ce que nous puissions même exporter ensuite cette vision de l'islam, comme le fait l'Occident avec ses valeurs universelles. À partir de là, moi je voulais que mon objectif c'est d'abord de servir les intérêts de la France. Je suis un patriote, j'aime mon pays, j'ai fait mon service militaire sous les drapeaux, un an hein, en tant qu'appelé. Je suis fier d'être français et ce que je fais c'est pour l'intérêt de la France. La France, je mets l'islam au service de la France. Il s'agit pas d'islamiser la France, il s'agit de franciser l'islam.
Il nous reste peu de temps, Abdelali Mamoun. Quelques mots sur les élections. L'islam, la question de l'islam en France va être effectivement une des questions hein, de cette campagne électorale. Comment voyez-vous la place des musulmans dans cette campagne? Comment voyez-vous la voix des musulmans? Qu'est-ce que vous attendez, vous, des partis politiques? Qu'est-ce que vous attendez des médias?
Ben moi, j'espère que les musulmans vont réagir enfin et se prendre en main et aller chercher leur carte d'électeur. Et moi, je pense qu'il faut même dépasser cette étape. Il faut s'inscrire non pas simplement dans les listes électorales, mais dans les partis. Je suis contre la création d'un parti musulman, comme il y aurait un parti chrétien.
Démocrate, bon,
non,
ça.
Non. Moi, je suis assez opposé à la politisation de la religion, mais je suis pour l'engagement citoyen de mes coreligionnaires qui sont mes concitoyens de confession musulmane et qui auraient pour objet de défendre nos intérêts, de défendre, pourquoi pas, nos valeurs, nos préceptes et nos droits, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une recrudescence des actes islamophobes qu'il faut dénoncer, et il faut pour cela créer un lobby pour imposer à l'État de protéger nos concitoyens qui ont choisi d'être musulmans. C'est ce pourquoi j'invite les musulmans à militer et à intégrer les partis, à s'engager pleinement comme des citoyens, comme tout le monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au sein de la composante musulmane, il y a des fatwas qui émanent des courants salafistes et autres qui considèrent que voter c'est haram, que c'est péché, que c'est une hérésie, que de participer à la démocratie, je mets mes doigts pour parler de guillemets, et qui serait hérétique et qui serait un blasphème.
C'est vraiment courant ce
à chaque élection, vous avez tout un bombardement sur dans les réseaux sociaux et autres, sur Internet, qui vont encourager et dire aux musulmans attention, il ne faut pas aller voter pour les mécréants, etc.
Le vote musulman existe selon vous ?
Il existe, il est encore assez fragile. Alors pour vous dire les chiffres que j'ai moi, nous sommes 5-6 millions de musulmans en France. Il y a environ 2 millions qui sont de nationalité française. Seuls 1 million sont inscrits sur les listes électorales, oui. Mais seulement 10% de ces 1 million vote. Donc nous sommes à peine 100 000 à voter. Alors que quand vous voyez les Arméniens qui sont 500 000, ils sont à 300 000 à voter. Les Juifs sont 600 000, ils sont plus de la moitié à voter. Donc leur poids électoral est beaucoup plus respecté. Je les salue, c'est tout à leur honneur. Je suis pas en train de dire cela que pour être contre. Au contraire, ils défendent leur histoire, ils défendent leur héritage culturel, ils défendent leur patrimoine. Et pourquoi nous ne pourrions pas faire de même ? Il s'agit pas d'envahir la France, il s'agit pas d'islamiser la France. Il s'agit simplement de se faire respecter et de faire en sorte que nous puissions avoir le droit d'être des citoyens et pleinement des gens de confession musulmane.
Merci Abdelali Mamoun. Je rappelle le titre de votre livre « L'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive » et c'est publié aux éditions du CERF. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Réécoutez Religion du Monde sur www.rfi.fr. Véritable coup de projecteur.